Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, au cours de cette nouvelle émission Regards croisés, je vous propose de vous intéresser au bouquet énergétique à venir en France d'ici 2050. Comme vous le savez, nos ressources en pétrole s'amenuisent et s'éteindront à court terme. Nos ressources en gaz et en charbon, plus importantes, restent des énergies non renouvelables et avec de fortes émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, les énergies vertes ont le vent en poupe et se développent, mais ont leurs limites. Quant au nucléaire, que l'on soit hostile ou bienveillant envers cette énergie, tous s'accordent à dire qu'il y aura un avant et un après Fukushima, avec une sortie du nucléaire, prônée pour les uns, ou une diminution de notre arsenal nucléaire civil pour les autres. Rappelons que le nucléaire constitue aujourd'hui près de 80% de notre énergie électrique en France, une particularité au sein de l'Union européenne. Pour répondre à l'ensemble de nos questions, trois académiciens des sciences sont avec nous. Édouard Brézin, Sébastien Candel et Guy Laval, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, Édouard Brézin, vous êtes physicien, professeur émérite à l'École normale supérieure. Vous avez réalisé une partie de votre carrière au CEA. Vous êtes président honoraire de l'Académie des sciences. Sébastien Candel, vous êtes professeur à l'École centrale Paris et à l'Institut universitaire de France. Vos domaines de compétences portent notamment sur la combustion et la propulsion et la mécanique des fluides. Enfin, Guy Laval, vous êtes physicien, directeur de recherche émérite au CNRS, vice-président délégué aux relations internationales au sein de l'Académie des sciences. Vous vous intéressez notamment à la fusion nucléaire et au projet ITER. Ma première question sera d'ordre général concernant ce bouquet énergétique à venir en France à l'horizon 2050. Une question d'ordre général afin d'introduire notre sujet relatif à cette question. Quels sont nos besoins actuels en énergie en France et peut-on réaliser une projection de nos besoins énergétiques à l'horizon 2050 ? Édouard Brézin, pour commencer.
Écoutez, je crois que comparé à d'autres pays développés, je n'ai pas le sentiment que nous soyons particulièrement gourmands en énergie. En ce sens que si vous prenez le Japon ou les États-Unis, leur consommation énergétique, leur consommation électrique est supérieure en été à ce qu'elle est en hiver parce qu'ils sont climatisés. Nous, malgré la chaleur qui aujourd'hui est forte, nous avons échappé à cela et je crois que ceci fait que notre consommation n'a rien d'exceptionnel. Bien qu'il y ait des possibilités nombreuses que tout le monde connaît d'arriver à économiser de l'énergie. Je pense que sur ces questions d'économie d'énergie, les grands pays développés peuvent avancer. Vous le savez, tout ce qu'on peut faire avec les voitures, par exemple, qui, comparé à ma jeunesse, consomment aux 100 km deux ou trois fois moins d'essence. Tout le monde sait... même si on nous râlons tous un peu que les ampoules basse consommation sont bien meilleures. Nous savons qu'on peut faire aujourd'hui, à des coûts que je connais mal, qui sont importants, mais des bâtiments de self-suffisants en énergie. Ceci demandera beaucoup d'argent, mais on peut faire des économies d'énergie. En revanche, je crois qu'il faut bien garder présent à l'esprit que si on prend l'ensemble de la planète, à l'horizon 2050... quelles que soient les économies qu'un pays comme le nôtre réussira à faire, compte tenu des projections démographiques, compte tenu des pays en voie de développement qui émergent, nous aurons besoin de deux fois plus d'énergie. Donc c'est ça l'équation qu'il va falloir résoudre, tout en essayant de réduire la consommation de gaz à effet de serre et de gaz carbonique en particulier. Voilà l'équation impossible à résoudre à l'échelle du monde.
Sébastien Candel, je vois que vous avez pris des notes et vous avez des chiffres sous les yeux. Donc peut-être que ça répond aux équations dont vient de parler Édouard Brézin.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Édouard Brézin, la consommation actuelle d'énergie dans le monde tourne autour de la dizaine de milliards de tonnes équivalent pétrole. Et on irait vers la vingtaine. Dans les années 2050. C'est tout au moins la projection qu'on fait actuellement. En France, donc par habitant et par an, c'est autour de 4 tonnes équivalent pétrole par habitant. Et la moyenne dans le monde est autour de 1,8.
Donc ça veut dire que nous sommes des consommateurs...
Un petit peu plus que la moyenne, mais quand même beaucoup moins que certains autres pays qui sont autour de, par exemple, 10 tonnes équivalent pétrole par habitant et par an.
Alors, j'avais en tête cette question-là. On sait très bien que, petit à petit, donc, le pétrole est une ressource qui va devenir de plus en plus rare, qu'on va développer d'autres moyens de locomotion à travers notamment l'électricité. Est-ce que l'avènement de ces voitures électriques va faire que nous allons aussi développer notre consommation en énergie ? Sébastien Candel.
Alors, pour l'électrification des véhicules, notamment du transport terrestre, c'est quelque chose de très important parce que ça va permettre d'économiser les combustibles fossiles. Et ça, c'est une chose importante. Néanmoins, ça ne peut pas se faire en un instant. Il faut que le parc automobile change progressivement. C'est ce qu'on est en train de commencer à faire. Et on arrivera très progressivement à électrifier l'ensemble de ce parc. On peut tabler pour le moment sur une proportion relativement faible en termes d'énergie. Peut-être une vingtaine de pourcents de ce parc pourrait être électrifié. Et ça correspondrait à une puissance électrique d'environ, donc la puissance nécessaire pour cette flotte, d'environ 20 gigawatts. À comparer avec les 60 gigawatts installés, par exemple, avec les centrales nucléaires. Donc c'est une proportion importante, mais finalement réalisable.
Alors nous allons avancer puisque notre programme est chargé. La notion de bouquet énergétique n'est pas nouvelle. Selon les pays, les proportions des différentes ressources varient. La particularité de la France, je l'ai dit au début, est d'avoir développé une énergie électrique principalement d'origine nucléaire. Le reste est issu des ressources hydroélectriques, du charbon, du gaz naturel et l'éolien et le solaire de manière plus marginale. Or, l'Union européenne a fixé un objectif de 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Alors, au vu du débat actuel sur le nucléaire et des objectifs demandés par l'Union européenne, est-ce que cela signifie que nous allons nous orienter par la force des choses vers une baisse de l'exploitation du nucléaire au profit des énergies vertes comme l'éolien et le solaire, Guy Laval ?
Alors, cette contrainte sur la proportion donc, d'énergie renouvelable qu'on nous impose, personnellement, moi, elle ne me semble pas bien adaptée à la question qui est posée. Le problème que nous devons résoudre, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, la contrainte, elle devrait porter sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et non pas sur telle ou telle proportion d'énergie renouvelable. Par exemple, augmenter le nucléaire réduit les gaz à effet de serre émis, enfin en tout cas en partie, et pourrait faire partie donc du bilan qu'on nous impose pour 2020. Mettre en œuvre des méthodes de capture du CO2 à la sortie des brûleurs des usines à combustibles fossiles permettrait également de réduire donc les émissions de CO2. Et ça aurait un effet tout aussi bénéfique qu'utiliser des énergies renouvelables. Sauf pour ce qui concerne la ressource en pétrole qui peut se réduire et peut-être se tarir, mais on ne sait pas bien quand. Mais de toute façon, le charbon est là pour prendre la relève. Donc le problème, il n'est pas dans un état des ressources, il est dans la manière dont on utilise ces ressources.
Donc vous voulez dire que plutôt que de parler d'énergie verte à 20%, un objectif fixé à 20% d'énergie verte, il faudrait plutôt parler d'énergie qui émette peu d'émissions de gaz
Exactement.
À effet de serre.
Et on parlerait autrement du nucléaire dans ces conditions.
Alors, je vous propose de rester un peu sur le nucléaire. Nous avons des questions d'auditeurs, d'internautes, qui nous viennent lorsque nous préparons un sujet comme celui-ci. Et je vous propose la question d'une personne qui s'appelle Virginia, qui habite à Buffon, en Côte d'Or, et qui nous pose la question suivante. Au vu de ce qui se passe en Allemagne avec cette sortie du nucléaire qui est programmée, quel adjectif doit-on utiliser pour qualifier les décisions allemandes sur l'arrêt total de leur programme nucléaire ? Est-ce fou, follement courageux ou encore follement civique ou peut-être follement téméraire ? Édouard Brézin, je crois que vous avez quelque chose à répondre à cette personne.
Oui, je voudrais répondre. Évidemment, dans l'instant, dans l'émotion de Fukushima, on a tous envie de dire, on n'en veut plus, pas tant les morts, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas à Fukushima, mais c'est surtout le fait d'avoir cette crainte autour de nous, cette zone condamnée, etc. Néanmoins, il faut quand même regarder la planète dans son ensemble. J'en parlais à l'instant, 2050, doublement d'énergie nécessaire. Et ceci, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est parce que, pour des bonnes raisons, parce qu'il y a des pays... Parce que la démographie augmente et parce qu'il y a des pays qui sont en train de sortir du sous-développement et qui ont besoin d'énergie. Donc, nous n'allons pas nous désoler de l'augmentation de la demande énergétique. Simultanément, il faut réduire le CO2. Il n'est pas question, à mon avis, de le faire. Je crois que c'est complètement irréaliste de le faire sans utiliser tout ce qu'on peut utiliser, qui contient le solaire, qui contient l'éolien, qui contient la géothermie, si on y arrive, et qui contient également le nucléaire. Où peut-on mettre du nucléaire ? A priori, le nucléaire présente une difficulté particulière, c'est qu'il demande des investissements en capital importants. Un pays réellement pauvre, émergent, a du mal aujourd'hui à investir, à mobiliser les capitaux nécessaires pour le nucléaire. Donc, à mon sens, nous devrions aller, si nous avions une bonne gestion des ressources de la planète, on devrait aller plutôt dans une planète qui réserve les combustibles fossiles qui, comme vous le disiez, vont s'épuiser, à des pays en voie de développement qui ne peuvent pas s'offrir des investissements aussi chers, et réserver le nucléaire à des pays qui n'ont pas ces problèmes, des pays riches et anciens, comme la France et l'Allemagne. Autrement dit, dans un bon équilibre du monde à l'échelle 2050, je trouve qu'on devrait forcer le nucléaire dans les pays industrialisés et puissants et aider les pays en voie de développement en leur donnant le combustible ou en leur vendant, mais en donnant, si on peut, les combustibles fossiles qui, eux, s'épuisent. Donc voilà comment, moi, je perçois l'avenir du monde. Et donc, pour répondre à cette question, je ne crois pas qu'il soit follement civique à l'échelle de la planète de suivre l'exemple allemand. Je pense que c'est une faute de signe, comme on dirait en mathématiques.
Vous avez parlé de l'aspect émotionnel qui est très important et qui peut justement, oui, à terme, faire prendre des décisions. Est-ce que vous pensez, Guy Laval ou Sébastien Candel, ou même vous deux, est-ce que vous pensez qu'à terme, ça pourrait avoir un impact sur le développement de centrales nucléaires, notamment de centrales nucléaires dites de quatrième génération? Est-ce que vous pensez que ça peut fausser la recherche et la mise en place de centrales toujours plus performantes? Guy Laval.
Alors effectivement, je crois que ça peut avoir des effets négatifs sur la mise en place des réacteurs de quatrième génération, parce que s'il y a un freinage dans l'utilisation des réacteurs de troisième génération et de deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui sont construits maintenant et ceux qui vont l'être dans les années qui viennent, les industriels, eux, ils vont observer le marché et avoir l'impression que le marché se rétrécit. Dans ces conditions, voyant que le marché se rétrécit, ils ne vont pas être passionnés par le développement d'une nouvelle source d'énergie dont l'intérêt principal est tout de même de pallier le risque du nucléaire actuel d'être à court d'uranium consommable assez rapidement. Donc si les usines ne se construisent pas, si les centrales nucléaires actuelles cessent d'être construites à un rythme élevé, ça veut dire qu'on va pouvoir vivre sur les schémas actuels de deuxième et troisième génération pendant encore très longtemps. Et le marché, lui, il ne regarde que ça. Donc, les industriels ne vont pas se tourner vers la quatrième génération qui risque de prendre du retard.
Sébastien Candel, c'est une... Pardon, Édouard Brézin, vous vouliez rajouter
oui,
quelque
chose?
Oui,
je voudrais dire un petit mot pour situer l'enjeu. Avec les combustibles que nous avons accumulés grâce à nos activités nucléaires passées, nous avons aujourd'hui, sur notre sol, sans aucune exploitation minière supplémentaire, sans dépenser le moindre centime supplémentaire, nous avons de quoi faire fonctionner des réacteurs de quatrième génération pendant des milliers d'années, si nous le voulons.
Avec
nous avons
déchets.
Autant de ressources énergétiques là que probablement le pétrole de l'Arabie Saoudite, sans dépenser un centime de plus et sans émettre de CO2, contrairement au pétrole. Donc, ce n'est pas une décision innocente, ce n'est pas simplement un détail quelque part.
Hein. Sébastien Candel, sur ce point.
Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il sera difficile de vivre uniquement sur les renouvelables. Déjà, lorsqu'on fait des évaluations quantitatives des surfaces nécessaires, par exemple, pour déployer des éoliennes, elles sont considérables. J'ai fait un petit calcul pour voir si on cherchait simplement à partager les 20% qui étaient demandés en termes de renouvelables entre l'éolien, la biomasse et le solaire. Et on arrive à une surface de 26 000 km² en France pour l'éolien. Donc 5% du territoire serait, et ceci c'est simplement pour arriver au tiers des 20% demandés. Donc on aurait beaucoup d'éoliennes partout, donc le nombre serait de l'ordre de environ 40 000 éoliennes, hein, quelque chose comme ça. Pour le solaire, c'est un petit peu la même chose, peut-être un petit peu moins. On peut tirer un peu plus de watts par mètre carré par le biais du solaire, mais encore des surfaces considérables. Et la biomasse, c'est un peu pareil. Hein. On a ce sont des énergies qui sont très diffuses. Donc, utiliser uniquement des renouvelables, ça voudrait dire rendre industrialiser l'ensemble du territoire, c'est-à-dire mettre partout des éoliennes, de la biomasse et du solaire. Et donc, il faut faire des évaluations quantitatives et ne pas simplement s'interdire des voies sans avoir au préalable réfléchi aux conséquences et aux quantités nécessaires.
Vous faites peut-être référence à l'Allemagne qui a installé beaucoup d'éoliennes qui ne fonctionnent pas forcément à plein régime, qui ne sont pas forcément installées au mieux.
Les éoliennes fonctionnent 20% du temps. Hein. Lorsqu'on analyse leur fonctionnement, on voit qu'elles ne marchent pas tout le temps. Donc il faut, en même temps qu'on construit des éoliennes, avoir des centrales thermiques, des centrales fossiles, qui vont consommer donc du gaz ou du charbon et qui vont suppléer aux éoliennes lorsque celles-ci ne marchent pas. Si on veut développer l'éolien, il faut simultanément soit déjà disposer de centrales thermiques, soit en construire de nouvelles.
Est-ce qu'il y a le cas pour l'Allemagne, précisons-le. Voilà.
Si on voulait donc développer l'éolien sur une grande échelle en France, ça reviendrait probablement à construire aussi des centrales à gaz. Et puis on vient de s'interdire d'utiliser le gaz de schiste. Donc ça reviendrait donc finalement à importer du gaz d'autres pays.
Alors, avant de marquer une pause, je vous propose de vous intéresser à une étude qu'a menée un de vos confrères qui s'appelle Michel Combarnous, qui est correspondant à l'Académie des sciences. Vous êtes nombreux à vous intéresser aux questions d'énergie, qui esquisse une possible répartition de la consommation des énergies d'ici 2200. Et en première position, il met en avant le charbon, qui représenterait 25% de la consommation des énergies et qui serait bien plus en avant que le nucléaire, qu'il estime à 10%. Et puis, en deuxième position, il place la biomasse et en troisième position, la thermodynamique. Est-ce que vous pourriez nous commenter ces chiffres ? Est-ce que réellement, on s'oriente vers une consommation de charbon au profit du nucléaire ? C'est comme ça que vous voyez les choses également ?
Mais nous y sommes, Sébastien.
Sébastien Candel.
J'avais noté que dans la répartition qu'il donnait, il manquait 16%. J'imagine que c'est le gaz. Hein. Le total ne faisait pas 100%. Alors, c'est vrai que le charbon prendra une place importante. Il la prend déjà. Hein. On construit actuellement une centrale thermique en Chine par semaine. Hein. Donc, on va consommer beaucoup de charbon dans l'avenir. Alors, on souhaiterait que ce charbon soit consommé tout en séquestrant le CO2, en captant et en le séquestrant. C'est une possibilité, mais pour le moment, elle n'a été étudiée qu'à très petite échelle et on n'a pas encore développé donc, cette séquestration à grande échelle. La difficulté ici est aussi celle de l'acceptation par le public. Alors, si ça revient à capter le CO2 d'un côté et puis à le transporter à grande distance pour le séquestrer dans des réservoirs éloignés des populations, ça sera quelque chose d'à la fois très difficile et aussi de peu économique. Donc, il y a, dans l'utilisation du charbon, il y a déjà cette difficulté parce que brûler du charbon, ça veut dire envoyer dans l'atmosphère des gaz à effet de serre en grande quantité.
Donc le développement de centrales à charbon n'irait pas sans la séquestration du CO2 sous terre.
Pour le moment, on ne va pas dans cette voie, mais c'est effectivement ce qu'il faudrait faire. Il faudrait non pas simplement brûler le charbon sans autre traitement, mais effectivement récupérer le CO2 qui est issu de la combustion.
Edouard Brézin.
Il faut être clair, le charbon est abondant, il n'est pas cher. Donc, les pays qui ont beaucoup de charbon, face à l'urgence, ils brûlent du charbon. Nous sommes très malheureux de ça parce que ça émet des gaz à effet de serre. Et la séquestration du CO2, on espère qu'un jour elle marchera, mais on est largement au niveau de la recherche. Donc, nous sommes assez inquiets. Comment arriverons-nous à diminuer le CO2, à le diviser par deux à l'échelle 2020, comme nous y conduisent nos collègues climatologues, en qui j'ai toute confiance? Comment ferons-nous ça compte tenu du charbon? À mon avis, on n'y arrivera pas. Et si on fait en plus une sortie du nucléaire, alors là, c'est même pas la peine d'y penser. Malheureusement, depuis que le GIEC nous prévient, maintenant depuis une quinzaine d'années, au lieu d'avoir suivi le moindre scénario raisonnable, nous avons suivi le fameux scénario « business as usual », c'est-à-dire aucune réduction véritable dans les émissions de CO2, malgré tous les efforts qui ont pu être faits. Donc, voilà, le charbon est abondant et pas cher. Je dirais presque hélas, mais
c'est une réalité.
Voilà la situation.
Je vous propose de marquer une pause, si vous voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Homme politique, écrivain, journaliste et même rugbyman, retrouvez le parcours exceptionnel d'Arthur Comte, un homme libre raconté par sa fille Dominique Bonnat. Entre les couloirs de l'Assemblée ou de l'ORTF, plongez dans la culture catalane. Téléchargez dès à présent l'émission consacrée à Arthur Comte sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Regards croisés en compagnie d'Edouard Brézin, Sébastien Candel et Guy Laval, émission consacrée au mix énergétique à l'horizon 2050 en France. Intéressons-nous, si vous voulez bien, aux énergies vertes. Vous l'avez déjà esquissé, Sébastien Candel. Jusqu'à quelle limite pouvons-nous développer ces énergies en France? On pense bien sûr à l'éolien et au solaire, mais il y a également la géothermie. Est-ce que l'éolien est une énergie que l'on pourrait développer, malgré le débat qui commence à se développer en France sur des installations qui auraient lieu offshore et qui ne plaisent pas forcément aux personnes qui habitent sur place, près des rives?
Donc l'éolien, bien sûr, on peut le développer. Donc j'ai calculé pour les 20%, si on voulait effectivement obtenir 20% d'énergie de renouvelables. Donc ces 20% partagés entre l'éolien, le solaire et la biomasse. Ça voudrait dire qu'il faudrait installer une puissance éolienne, par exemple, si on partage en trois, de 56 gigawatts, 26 gigawatts de fermes solaires, ceci à comparer avec les 60 gigawatts dont on dispose actuellement pour le nucléaire. Donc ce sont des puissances considérables hein, qu'il faudrait cette fois-ci obtenir par ce biais. Ça veut dire environ 56 000 éoliennes de 1 MW, ou si on arrive à faire fonctionner les très grandes éoliennes de 3 MW, 19 000 éoliennes. Et si on fait le calcul de la surface nécessaire pour l'implantation de toutes ces éoliennes, c'est autour de 28 000 km², donc 5% du territoire avec des éoliennes. Alors il y en aurait beaucoup un peu partout. On aurait aussi 2600 km² de fermes solaires avec tout le câblage que ça nécessite. Là aussi, c'est des surfaces assez considérables. Et pour la biomasse, il faudrait environ 26 000 km² aussi, qui pourraient être d'ailleurs ceux qui sont consacrés aux éoliennes. Donc il y a effectivement cette possibilité de faire cohabiter la biomasse et l'éolien, sachant qu'il faut accepter quand même d'avoir des éoliennes dans le paysage et peut-être certains paysages ne sont pas adaptés à cette utilisation. Par contre, quand même, le problème, c'est que ces énergies, tout au moins l'éolien et le solaire, ce sont des énergies qui sont intermittentes et il faut prévoir par la même occasion des centrales électriques d'appoint qui ne peuvent pas être des centrales nucléaires et il en faudrait environ 50 gigawatts. Donc un nombre tout à fait considérable, une cinquantaine de centrales supplémentaires pour assurer l'appoint lorsque l'éolien ne fonctionne pas ou lorsque le solaire s'arrête la nuit, par exemple. Donc ça fait quand même beaucoup d'énergie fossile en plus. Alors autant l'éolien est intéressant pour un pays comme le Danemark parce qu'il remplace les centrales à charbon pendant une partie du temps, autant l'éolien en France est moins intéressant parce qu'on a relativement peu de centrales thermiques. On fabrique notre électricité essentiellement à partir du nucléaire et puis de l'hydroélectrique.
Ce qui est intéressant, c'est au début cet engouement pour l'éolien qui petit à petit s'est un peu retourné vis-à-vis du public, notamment donc parmi les internautes qui nous ont écrit. Je vous fais part de cette remarque. Je suis pour l'éolien, nous dit Michel qui habite non loin de la baie du Mont-Saint-Michel. Je suis pour l'éolien, mais pas dans ma région. Donc je crois que c'est une question qui revient souvent. Notre patrimoine est classé à l'UNESCO, il risquerait d'être déclassé, une perte économique importante pour le tourisme et pour notre image. Donc j'imagine que les physiciens que vous êtes avaient aussi à traiter ces questions-là.
C'est l'effet bien connu, bien classique, qu'on appelle l'effet NIMBY. C'est un sigle américain. NIMBY, ça veut dire « not in my backyard ». Autrement dit, les gens sont tout à fait pour avoir des TGV ou des équipements du moment qu'eux, il ne se passe rien chez eux. Bon, c'est vrai, personne n'a envie de mettre de l'éolien sur le Mont-Saint-Michel, ça c'est clair. Mais je crois quand même qu'il nous en faudra. Je ne suis certainement pas contre l'éolien. Ce que nous a dit Sébastien Candel, des limites s'imposent. Il faut quand même savoir que le Danemark et l'Allemagne, qui sont les recordman d'Europe de l'éolien, sont quand même ceux qui consomment le plus de charbon et qui émettent le plus de gaz à effet de serre par habitant. Donc non, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est quand même de réduire les gaz à effet de serre, car le changement climatique n'est pas une vague menace, c'est une vraie menace pour l'avenir de la planète. L'augmentation du niveau des mers, la désertification de nombreuses régions de la planète, comme par exemple le sud du bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, qui sont très menacés, sont des choses extraordinairement sévères. Donc on ne peut pas, si vous voulez, on ne le voit pas. Donc on a tendance à le laisser un peu de côté. Non, je crois que nous pensons, nous scientifiques à l'Académie des sciences qui s'est exprimée à ce sujet, que cette préoccupation du changement climatique est une préoccupation dominante pour le siècle à venir, et en attendant peut-être d'autres sources d'énergie et d'autres façons de faire. Mais pour notre siècle, c'est ça le problème qu'il faut résoudre. C'est celui-là le problème principal.
Guy Laval, vous qui vous intéressez notamment à la fusion nucléaire et au projet ITER, on en reviendra à la fin de cette émission, comment observez-vous justement ce débat qui s'installe petit à petit sur l'éolien, sur le solaire, sur la géothermie ? Vous regardez ça avec un œil amusé ou au contraire très intéressé ?
Non, je suis très très intéressé, bien entendu. Mais si je me place maintenant du point de vue, disons, de quelqu'un qui travaille sur la fusion et qui est évidemment intéressé par ce mode de production d'énergie, je me suis un peu déconnecté de ces problèmes qui se posent. Donc, dans les décennies qui viennent, disons entre maintenant et 2050, puisque toutes les estimations sont faites pour des contraintes à appliquer en 2050, donc on ne s'occupe pas trop de ce qui se passe après 2050. Mais on oublie peut-être qu'après 2050, l'effet de serre n'aura pas disparu et il restera toujours là. Et il faudra bien aussi continuer à lutter contre l'effet de serre. Et c'est à ce moment-là, donc, j'espère que la fusion pourra sortir son atout maître. Et si elle marche bien, il y a évidemment beaucoup de choses à faire, mais elle pourra peut-être, si elle est compétitive, résoudre tous les problèmes dont on se pose aujourd'hui.
Alors je vous propose de faire cet aparté maintenant sur la fusion nucléaire. Justement, on a la question d'un autre internaute qui s'appelle Jérôme, qui habite à La Rochelle, qui dit « Je trouve la méthode de la fusion très intéressante. Avons-nous une date estimée au développement de cette énergie ?»
Alors,
peut-être déjà quelques mots sur la fusion rapidement, si c'est possible
oui.
de le résumer.
Alors, le problème de la fusion, donc, c'est, disons que l'avantage essentiel de la fusion, c'est qu'elle utilise un combustible qui n'est pas de l'uranium ou du plutonium. Elle utilise un combustible qui est a priori assez anodin, qui est un mélange de deutérium qui se trouve dans l'eau de mer facilement et pour pas cher, et qui se trouve également dans la croûte terrestre, qui est le lithium. Et à partir de ces deux composantes, on peut arriver à fabriquer des quantités d'énergie considérables. Mais la difficulté vient du fait qu'on est obligé de porter la matière à des températures invraisemblables, puisqu'il faut atteindre des dizaines de millions de degrés. Donc si on parvient à ces performances, on a une source d'énergie quasi inépuisable, sans aucun risque au point de vue, disons, sans aucun risque analogue à ceux des centrales nucléaires actuelles. Disons, toutes les conditions pour qu'un accident du type, par exemple, de Fukushima ne puisse pas arriver ont été calculées, vérifiées. Et bien qu'il y ait quelques matériaux radioactifs, dans les futurs, il y aura quelques matériaux radioactifs qui auront été rendus radioactifs par activation, eh bien, les puissances thermiques générées, si on arrête la machine, ne provoqueront pas d'augmentation de température notable. Donc, on ne craint pas d'incidents violents. Et ça, évidemment, ça rassure sur la possibilité d'utiliser ce type de centrale un peu partout. Il n'y a plus de crainte à avoir une sûreté absolue, etc., etc. Les calculs ont montré que même si, pour une raison ou pour une autre, la machine explose, l'impact sur l'environnement sera faible. Le lithium est transformé en tritium avant d'être injecté dans la machine pour faire de l'énergie. Ce tritium est radioactif. Donc, certains disent, mais c'est pas vrai tout ça, le tritium est radioactif et c'est très méchant, etc. En fait, le tritium, c'est vrai qu'il est radioactif, mais sa radiotoxicité est très très faible. Donc c'est pas non plus de là que peut venir une menace. Donc le problème de la fusion, c'est qu'elle est difficile à faire, mais ses promesses sont grandes. Donc voilà, le
alors,
problème
année,
est de savoir...
Alors, quelle échéance
répondre
à la question
de
l'internaute.
Donc l'échéance, la difficulté qu'on rencontre pour évaluer une échéance, c'est qu'actuellement, je dirais que le problème de la fusion n'est pas pris très au sérieux. Et le problème de la fusion est maintenu comme une espèce de recherche plus ou moins impliquée, mais on ne cherche pas à intéresser les industriels au procédé, donc les aspects de faisabilité industrielle, du coup, sont négligés. Et le fait qu'on n'ait pas de réponse sur un certain nombre d'aspects de faisabilité, en particulier sur les matériaux possibles, les matériaux qui pourraient satisfaire aux conditions imposées.
Et résister à la chaleur.
Et résister donc, à tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc cette absence de résultats dans ce domaine fait qu'il est très difficile de donner une date. Moyennant quoi ? Si on croit ceux qui pensent avoir des dons de prévoyance, eh bien, on estime en général que la première usine débitant de l'électricité sur le réseau à partir de réactions de fusion pure devrait apparaître au début de la deuxième moitié du siècle.
Bon, eh bien, écoutez, voilà, comme ça notre internaute aura toutes les précisions nécessaires. Édouard Brézin.
Oui, j'espère que Guy Laval a raison. Je crois que c'est un chiffre optimiste. En tout cas, il faut bien préciser que la fusion n'est pas la solution au problème que nous avons pour beaucoup de dizaines d'années. Donc j'espère que ça marchera. Je suis ravi qu'il y ait un consortium mondial qui étudie la fusion. On n'est pas pressé. C'est pas ça le problème aujourd'hui.
Bon, alors, nous allons avancer, si vous voulez bien. Parenthèse fermée, mais une parenthèse quand même très importante. Parenthèse fermée, nous allons revenir sur ces énergies vertes. Une autre énergie, elle va en poupe, c'est le solaire. Alors, on parle bien sûr du réchauffement climatique, de l'ensoleillement qui va augmenter. On parle aussi de ces pays qui sont proches du désert, qui pourraient avoir, pourquoi pas aussi, des panneaux solaires. Est-ce une énergie qui pourrait se développer, selon vous, et apporter des résultats intéressants, même si Sébastien Candel nous en a déjà parlé un petit peu. Alors Sébastien Candel peut-être, et puis ensuite Édouard Brézin.
Oui, alors ces projets de placer des kilomètres carrés, non pas dans des régions relativement habitées, mais plutôt dans les déserts, sont des projets intéressants. C'est une possibilité, disons, de développer donc de l'énergie en très grande quantité sur des surfaces qui sont pour l'instant pratiquement peu occupées. Il faudra encore transmettre cette énergie à partir de là vers les autres pays. Il faut bien sûr aussi s'entendre avec les pays dans lesquels on mettrait en place ce type de moyens pour faire de l'exportation d'énergie sous forme probablement d'énergie électrique. Donc la mise en place nécessiterait quand même un réseau assez important et beaucoup d'infrastructures.
Et l'ensablement, par exemple, ne serait pas un point négatif pour l'installation de ces panneaux solaires? C'est ce que disent un peu les détracteurs, à savoir que, bien sûr, le Sahara, ou par exemple, ces sables se déplacent et donc pourraient couvrir.
Il y a beaucoup de difficultés pratiques pour le solaire photovoltaïque. Ça n'est pas très grave, d'après ce qu'on m'a dit. Hein, on pense que même s'il y a un petit peu de poussière sur la surface des panneaux solaires, ceux-ci ont pratiquement le même rendement. Par contre, pour le solaire concentré, il faut effectivement nettoyer les miroirs et pour qu'ils aient leur pleine efficacité. Et ça pose quelques questions. Il faut aussi apporter de l'eau dans les régions où on mettrait ce solaire concentré, quoi. Donc, il y a des difficultés pratiques importantes. Mais c'est une possibilité.
Édouard Brézin, sur ce point ?
Bon, d'abord, il faut préciser que le solaire, il y a en gros trois choses. Il y a d'abord la chose élémentaire qui consiste à chauffer de l'eau dans des ballons qu'on met sur un certain nombre de maisons dans les régions méditerranéennes, par exemple. Vous avez le solaire photovoltaïque et vous avez le solaire concentré. Alors, actuellement, on parle beaucoup du photovoltaïque qui a fait des progrès importants, car les panneaux, aujourd'hui, et dans la recherche avance assez vite, sont capables de transformer une plus grande partie du rayonnement solaire en électricité. Donc les rendements ont augmenté, donc le photovoltaïque a plus de perspectives qu'il en avait il y a 20 ans, par exemple. Mais, effectivement, ces grandes fermes solaires, qu'il s'agisse de panneaux ou du solaire concentré, c'est-à-dire de miroirs, et je vais revenir sur les miroirs, dans ces régions du Sud, peut-être est-ce une chance pour les régions du Sud à qui nous payerons une redevance, peut-être est-ce aussi une difficulté politique si nous nous retrouvons avec des groupes qui veulent faire du terrorisme ou faire chanter les pays du Nord. Donc la dépendance extérieure quand même des sources énergétiques est quand même un problème. Je dois dire que l'indépendance énergétique paraît pas tout à fait négligeable en autant troublé. Solaire concentré. Alors, l'avantage du solaire concentré, qui est balbutiant à l'heure actuelle, qu'ont beaucoup étudié les Espagnols, consiste à utiliser des batteries de miroirs sur de grandes surfaces et à envoyer les rayons du soleil dans un endroit où on va chauffer de l'eau et cette vapeur d'eau va faire tourner des turbines. L'avantage actuel, éventuellement utilisable, c'est que on peut peut-être le stocker. Vous savez que le grand problème de l'énergie, c'est qu'on ne peut pas le stocker, d'où les problèmes avec l'intermittence. Il y a actuellement des installations de nature plus expérimentale qu'industrielle, mais dans lesquelles on envoie ces rayons lumineux sur des grands bidons de sel qu'on fait fondre, qui fondent à des températures de 500-600 degrés. Enfin, et à ce moment-là, on a une réserve d'énergie sous forme de chaleur. Et donc, la nuit, quand il n'y a plus de soleil, la chaleur résiduelle est très forte et on peut encore faire circuler de l'eau dedans pour fabriquer de la vapeur qui fera tourner des turbines. Donc, c'est quand même une piste qui n'est pas négligeable. Il y a là quelque chose un peu nouveau par rapport à ce que nous avons connu autrefois. Donc, il faut garder cette perspective.
Mais pas forcément à développer en France.
Je pense que la France n'est pas le pays le plus adapté. L'Espagne l'est beaucoup. Les États-Unis, dans leur sud-ouest, ont mis aussi des grandes installations solaires. Je ne suis pas très sûr qu'elles fassent du stockage, mais les Espagnols en font.
Un autre point qui est la géothermie. Est-ce que vous pensez qu'on n'en parle pas assez? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser en la matière? Et notamment, pourquoi pas, au Dom-Tom, puisqu'on reste sur le bouquet énergétique en France. Qui veut prendre la parole? Édouard Brézin.
Non, nous sommes tous un peu embarrassés. Nous avons le sentiment que la géothermie est une ressource très importante dans les pays balkaniques. L'Islande utilise la géothermie. Je crois que l'Islande est le premier producteur européen de bananes grâce à la géothermie, qui chauffe des serres et puis toute la ville de Reykjavik a son électricité qui vient de sources chaudes. Donc là, ça marche très bien. Je crois, et peut-être que Sébastien Candel a des chiffres plus précis que moi, que c'est une énergie qui est si peu concentrée qu'on ne peut pas en tirer des puissances importantes autrement que dans les pays volcaniques. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Peut-être que si on faisait des trous très profonds, on arriverait à sortir une plus grande quantité de chaleur. Ça coûte très cher. Vous savez, il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est non seulement nous sommes gourmands, les hommes sont gourmands en énergie, mais ils sont gourmands en énergie pas chère. Si l'énergie est très chère, elle sera réservée à quelques-uns. Et donc, la grande transformation du monde industriel, c'est que grâce à ces sources d'énergie, on a réussi à, par exemple, éliminer le moteur humain. Et le moteur humain, c'était l'esclavage quand même. Je reprends ce que disait notre collègue Robert Dautray. Donc l'énergie est quand même une libération de l'homme, à condition évidemment que cette libération soit accessible à tous. Donc ne pas perdre de ça en vue.
Vous parlez justement de l'augmentation du coût d'énergie. Est-ce que vous pensez justement qu'on va aller vers une augmentation inéluctable du coût de l'énergie, que l'on soit, que le reste au nucléaire, qu'on développe les énergies renouvelables? Sébastien Candel. Ah, voilà une colle.
Il est toujours assez difficile de prévoir. Bon, ça va dépendre des choix qui seront faits. C'est vrai que si on s'intéresse uniquement à des énergies diffuses, peut-être que les coûts vont augmenter. C'est vrai qu'on a vécu sur les énergies fossiles qui sont des énergies pas très chères. Et il est possible que finalement l'énergie devienne plus chère dans l'avenir. Sur ce sujet, il est assez difficile de faire des... Pour moi, il est difficile de faire des
prévisions. Villaval peut-être ? Non. Édouard Brézin.
je voudrais dire des choses bien évidentes. D'abord, l'énergie nucléaire, qui est l'énergie la moins chère à l'heure actuelle, au kilowattheure, est une énergie dont le coût va augmenter. Le coût va augmenter parce que nous voulons tous une sécurité accrue. Tout le monde a vu l'épisode un peu douloureux dans lequel la France, qui avait un marché à Abu Dhabi qu'elle croyait gagner d'avance, s'est fait battre par les Coréens du Sud, qui ont proposé des réacteurs moins chers que nos EPR. Les EPR ont des dispositifs de sécurité de bien meilleure qualité que ce que proposaient les Coréens, mais ils étaient moins chers. Peut-être que Fukushima va arrêter l'idée qu'on peut faire du nucléaire low cost et que, dans ces conditions, ça va augmenter légèrement. Enfin, ou ça va peut-être même sensiblement. Cela dit, le nucléaire reste moins cher que le gaz, qui est le deuxième dans l'ordre du mérite, si j'ose dire, le troisième étant le photovoltaïque et l'éolien, assez loin derrière, qui vont baisser, j'espère. Et donc, peut-être que tout ceci va se resserrer un peu. Je ne crois pas qu'on va revenir au baril de pétrole à 3 dollars. Il va augmenter, le baril de pétrole. Donc, je crois que l'énergie va augmenter un peu, qu'on le veuille ou pas, à la fois pour des raisons de sécurité et pour des raisons de raréfaction des combustibles fossiles.
Guy Laval, sur cette question justement du coût de l'augmentation de l'énergie nucléaire, c'est aussi, donc, comme le disait Édouard Brézin, une évidence?
Oui, encore que, d'après Arnaud Virgeon, l'augmentation du coût de l'EPR due aux dispositifs perfectionnés de sûreté qui ont été ajoutés par rapport aux anciens réacteurs ne concerne que 10% du prix de l'EPR. Ce fait-là ne devrait pas entraîner une augmentation extraordinaire du coût d'énergie.
On dépend très fortement d'une question d'actualité, en fait, qui est combien de temps va-t-on faire fonctionner des réacteurs nucléaires? Les Américains, qui se sont posés la question avant nous parce qu'ils ont des réacteurs plus anciens, sont en train d'examiner les autorisations qui sont données aux exploitants pour savoir combien de temps va-t-on laisser tourner des centrales. Ils en ont qui ont des réacteurs. Ils en ont qui ont atteint 40 ans. Ils ont donné actuellement à plus de la moitié de leur parc, qui est plus de 100 réacteurs, une autorisation de fonctionnement qui a été portée à 60 ans. Et ils étudient même la possibilité d'aller au-delà. Vous voyez bien que le coût du nucléaire dépend de combien de temps on l'utilise. Pour revenir à ce que disait Guy Laballe, qui a raison, et Anne Lauvergeon probablement aussi, le coût va dépendre de savoir est-ce qu'on fait un gros investissement, mais il va durer 40 ans, 60 ans, donc par an, l'amortissement va donner un coût assez faible, ou bien est-ce que c'est une illusion de penser qu'on peut aller si loin. On est dans l'actualité, puisque vous savez bien que l'autorité de sûreté vient de donner, si je comprends bien, l'autorisation à Fessenheim de fonctionner pendant une quatrième décennie, c'est-à-dire entre 30 à 40 ans.
Alors, il reste encore beaucoup de questions à évoquer, mais malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Juste une petite dernière question. Parce que de plus en plus, nous sommes amenés à avoir des reportages ou des émissions qui sont faites sur ces maisons et ces bâtiments qui sont indépendants sur le plan énergétique, qui sont même dits à énergie positive. Est-ce que vous pensez qu'à terme, nous pourrions développer ces projets et avoir, pourquoi pas, une ville avec des immeubles qui fonctionnent entièrement de manière indépendante sur le plan énergétique? Sébastien Candel.
Oui, c'est une transformation qui serait très intéressante à faire. Et une bonne partie de l'énergie est utilisée pour se chauffer ou bien climatiser l'air. Et donc, réduire ces quantités et même fabriquer de l'énergie en supplément, ce serait très intéressant. Alors, l'objectif qui est donné actuellement, c'est de descendre le besoin énergétique par mètre carré, de passer de 200 kWh par mètre carré et par an à une valeur de l'ordre de 40 kWh par mètre carré par an. Ça se ferait une économie très importante. Alors pour cela, il faut réhabiliter des bâtiments, il faut détruire des bâtiments plus anciens qu'on ne peut pas réhabiliter, et puis il faut faire une architecture qui permette de mieux isoler, mieux ventiler, donner une inertie thermique plus importante, utiliser l'éclairage naturel, donc utiliser le soleil pour tout ça, quoi. Et donc ça, c'est très intéressant, mais ça ne pourra se faire que très progressivement, puisque c'est quand même quelque chose qui nécessite des investissements importants.
Et donc nous arriverions à terme à des bâtiments à énergie positive, c'est le terme qui est employé.
Alors l'énergie positive, peut-être dans certains bâtiments, mais dans beaucoup d'endroits, je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver toutes les sources nécessaires pour compenser le besoin énergétique du bâtiment lui-même. Mais améliorer les choses en termes d'isolation, c'est excessivement important. Et là, il y a des solutions très simples et donc des possibilités qui sont ouvertes pour faire évoluer des bâtiments anciens, pour faire en sorte que les isolations, le vitrage par exemple, soient améliorées. Donc ça apportera beaucoup d'économies.
Eh bien merci, ce sera le mot de la fin pour cette émission Regard croisé consacrée au mix énergétique, au bouquet énergétique. On a vu l'importance de ce bouquet à développer, mix énergétique à l'horizon 2050 en France. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. Et puis, je l'espère, à bientôt pour une prochaine émission sur ce sujet ou peut-être sur le comité Solidarité Japon auquel vous appartenez tous les trois. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.